Radio Kapi. Oh, Kapi.
Seuls les diplômés des scientifiques peuvent participer au concours avec ou pas 70%. Aussi, tout diplômé d'État de toute autre discipline doit présenter un diplôme d'au moins 70% avant d'accéder au concours d'admission. Ce sont les nouvelles conditions d'admission désormais en faculté de médecine telles que publiées par le ministre de l'ESU. Aussi, cette bonne et grande nouvelle pour la RDC, du café congolais produit depuis le Sud Kivu par l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC sont sur la voie d'exportation pour le Liban. Une nouvelle encourageante qui pousse les responsables à inviter les Congolais à consommer local. À suivre comme invité en fin de cette édition, Joël Lissenga, professeur à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Il est auteur d'un ouvrage de 300 pages sur le leadership politique et sous-développement en RDC. Merci de choisir Radio Kapi pour vous informer, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Dzangi a fixé dans un arrêté rendu public hier mercredi les conditions d'admission aux études des médecines dans les universités publiques et privées de la RDC. Cet arrêté précise que seuls les diplômés des scientifiques peuvent participer au concours avec ou pas 70%. Aussi, tout diplômé d'État de toute autre discipline doit présenter un diplôme d'au moins 70% avant d'accéder au concours d'admission. L'arrêté est motivé, selon le ministre, par le souci partagé par les acteurs intervenant dans le secteur de la santé d'améliorer le niveau des formations des médecins en RDC. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Nul ne peut être inscrit en première année de graduat ou en première licence LMD en faculté de médecine s'il ne réussit pas au concours d'admission organisé au sein de l'université. Le concours d'admission vérifie si les candidats à l'admission disposent des prérequis nécessaires à la poursuite avec succès des études supérieures et universitaires en faculté de médecine et met en compétition les places assises disponibles afin de retenir objectivement les candidats classés en ordre et utile. Selon l'arrêté numéro 0326, je le cite, ne peut être admis à participer à ces concours que le porteur d'un diplôme d'État ou son équivalent des humanités scientifiques ou d'un diplôme d'État de toute autre section obtenu avec au moins 70%. L'établissement organisant la filière médecine ne peut recruter en première année de graduat ou en première licence LMD que par rapport au quota d'inscription lui réservé à travers l'instruction académique de l'année, précise l'arrêté. Enfin, cet arrêté dit s'inspirer des résolutions des États généraux de l'ESU tenues à Lubumbashi du 10 au 14 septembre de l'année en cours.
Parlons toujours enseignement, sit-in ce jeudi au Palais du Peuple des étudiants de la faculté de médecine de l'Université franco-américaine. Ces étudiants dont la faculté a été fermée à la suite de la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire disent venir montrer leur indignation aux élus du peuple par rapport à la note circulaire du ministre de l'ESU fermant les facultés de médecine de plusieurs universités, les traitant de non-viables. Suivez Christian Kiapoyi au micro de Blechindani Kambala.
Nous sommes venus leur dire que c'est vraiment une décision très illégale. Parce que ce que lui appelle université soi-disant viable, je me demande, il s'est basé sur quel critérium pour déclarer ces universités non viables. Nous voulons rappeler que toutes ces universités, je prends l'exemple des universités de la ville de Kinshasa, nous partageons pratiquement les mêmes enseignants. Je peux vous en citer autant, les mêmes enseignants qui circulent. Et ces universités viables selon lui et les universités soi-disant non viables. Et nous regrettons aussi que un ministère qui a la mission de la formation va se baser sur le rapport du NASBEL, qui est l'ordre des médecins. Il va se baser sur ces rapports-là pour fermer les universités. Et dans son discours dans les États généraux, il dit que je sais qu'il y aura des retombées sur les décisions que nous allons prendre, mais il faudrait que vous leur dites que c'est vous qui m'avez demandé de prendre des décisions comme ça. Ça, c'est très grave.
Actualité sur le plan humanitaire. À Ituri, plus de 1800 enfants en âge scolaire qui ont fui l'insécurité des groupes armés dont la CODECO dans le secteur de Banyali-Kilo ne vont pas à l'école dans leur lieu de refuge en territoire des Djougou. Les notables de cette entité coutumière redoutent que ces enfants éparpillés dans les différentes zones de combat n'adhèrent aux groupes armés. Ils plaident pour une intervention urgente des autorités afin de protéger ces enfants. Le point de la situation avec Ezekiel Mouzalia.
Cette situation est consécutive à l'attaque des miliciens de la CODECO il y a 2 mois dans les localités des Kobou et Licéi, dans les territoires des Djougou, où ces miliciens ont incendié des maisons et ont tué des civils. Plus de 30 écoles, dont 8 du primaire, avaient été complètement incendiées par ces rebelles. Selon le président de la communauté Niali, plus de 1800 écoliers sont privés de leur droit à l'éducation dans leur lieu de refuge à Mungwalou. Il dit craindre que l'influence des activités minières et des groupes armés dans cette zone ne puisse hypothéquer leur avenir. Vital Tungulu.
Actuellement, les groupes armés sont dans nos forêts en train de massacrer la population, utilisent les enfants. Le deuxième risque, c'est que nous sommes dans une région minière et là où il y a l'exploitation de l'or, ces enfants risquent, à l'âge de scolarité, ils risquent de se retrouver dans des mines d'or en train de travailler et perdre l'avenir scolaire et ça sera un grand danger. La crainte de perdre toute une génération, c'est de perdre tout un avenir.
Signalons que près de 10 groupes de cette entité sont partiellement vidés de leurs habitants à cause de l'insécurité qui persiste dans la région. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
L'actualité nous amène au Kasaï oriental où le village est l'avenir de l'Afrique noire. C'est le thème d'un grand colloque interdisciplinaire qui s'est ouvert ce jeudi à Ngandajika dans la province de la Lomami. Ces travaux de 3 jours sont organisés par le projet Ditunga, une association de développement pour célébrer ses 15 ans d'existence. D'après le professeur Abbé Recteur, président du conseil d'administration du projet Ditunga, le but de ces colloques est de comprendre la place du village, d'identifier les problèmes majeurs qui se posent dans nos villages et qui sont à l'origine de la misère, des conflits, afin de définir les voies et moyens de réhabilitation et des promotions des villages comme espace d'opportunité. Des explications avec Esther Ndalafina.
Pour ce premier jour, 7 interventions sont prévues. Le professeur recteur Abbé Tshibakachikongo, président du conseil d'administration du projet qui a organisé ces travaux, va décortiquer le thème intitulé « Aimer et promouvoir le village ». À cet effet, il va partager quelques leçons de l'expérience de son projet depuis ses 15 ans d'existence dans la région. Le professeur Daniel Mutombo Outa s'est appesanti sur le village dans la vision africaine du monde. Le professeur Bertin Makolo de l'université de Kinshasa explique l'image du village dans quelques récits africains de fiction, tandis que le professeur Adrien Munyoka de l'université de Mbujimayi s'attellera sur le thème « Le conflit entre la ville et le village dans la musique congolaise moderne ». Le professeur Abbé Crispin Ochundiema de l'université Notre-Dame de Tchoumbe dans les Sankoro exposera sur le thème intitulé « Que ma langue colle à mon palais si je ne place Jérusalem au sommet de ma joie ». Le professeur Abbé Paulin Saboui de l'université Sainte-Croix de Rome parlera du Muntu dans la nature et dans la culture. La journée va se clôturer par l'exposé sur l'Afrique des villages et l'Afrique des bidonvilles du professeur Raymond Floribert de l'ISP de Mbujimayi.
Deuxième titre de cette édition en Sud Kivu, l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC s'apprête à exporter sa première cargaison de café à l'étranger. Près de 20 tonnes de café Robusta qui vont au Liban à partir de Bukavu au Sud Kivu. Ceci une année après l'inauguration de son usine de démarchage et traitement du café sur place. Le directeur provincial de l'ONAPAC Sud Kivu se félicite et appelle la population locale à consommer son propre café avant exportation. Le directeur François Kambale Nzanzu est au micro de Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
L'usine de dépachage de Bukavu va faire sortir son premier enfant. Aujourd'hui à Bukavu, on peut exporter le premier lot de café Robusta qui va aller au Liban. Dans les temps, les cafés qui étaient produits dans le Sud Kivu étaient acheminés dans les autres provinces par manque d'usine de dépachage. Nous avons au moins plus de 6000 tonnes que nous produisons dans le Sud Kivu. La coopérative Sopakdi a été meilleure au monde avec son café, encore une fois. En 2018, il était meilleur. Aujourd'hui, encore en 2021, il est publicité meilleur café au monde. Nous allons assurer l'exportation d'un conteneur, c'est-à-dire 19 200 kg de café Robusta qui vont partir. C'est presque 20 tonnes. Nous pensons avec cette allure à la grande saison qui va commencer au mois de mars, avril, mai. Nous allons regorger beaucoup de café qui vont aussi partir dans le monde extérieur. Quand il y a exportation, il n'y a pas seulement l'ONAPAC qui se retrouve. L'OCC, la DGDA, tous les services au niveau de la frontière. Il y a même les banques parce que quand les produits sortent, les rapatriements des fonds doivent se faire au niveau de nos banques locales. Donc c'est un circuit où tout le monde se retrouve.
Dans la même province, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement DICOC RDC signale le non-respect de l'arrêté du gouverneur de province qui suspend les activités minières de 6 sociétés minières étrangères à Mwenga. Cette organisation l'a fait savoir dans une correspondance adressée au gouverneur de province et dont une copie est parvenue ce mercredi à Radio Okapi. En réaction, le gouverneur du Sud Kivu parle des affirmations non fondées. Le point avec Cynthia Bashizi Nabizana.
DICOC RDC dit tirer ses informations de plusieurs sources concordantes à Mwenga, dont ses points focaux. Cette ONG cite nommément 2 sociétés sur les 6 suspendues qui continuent l'exploitation minière sur terrain comme si de rien n'était. Elle qualifie cette situation de rébellion ouverte à l'encontre de l'autorité provinciale, ce qui peut raviver des tensions latentes et mettre à mal la cohésion sociale dans le territoire de Mwenga. C'est ainsi que cette structure demande au gouverneur du Sud Kivu de prendre des mesures idoines pour faire respecter son arrêté. Ce sont des accusations non fondées, précise le gouverneur Ngwabidje que nous avons contacté. Le numéro 1 de la province affirme que son arrêté est respecté selon les informations qu'il détient des autorités administratives et militaires sur place à Mwenga. Cela n'empêche que le gouverneur de province nous a confié vouloir dépêcher dans les jours à venir une équipe de la division des mines sur terrain pour une contre-vérification. Cynthia Bashizi, Bukavu, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette mauvaise nouvelle. Plusieurs maisons se sont écroulées le mercredi à Luena pendant qu'il pleuvait dans le territoire de Bukama, dans la province de Olomami. D'après le chef relais de Luena, il y a aussi des blessés. Pour l'heure, ces services procèdent à l'évaluation des dégâts. D'autres détails avec Jean Landou.
Ces dégâts sont survenus ce mercredi dans la soirée. À en croire Moïse Moinzé, chef relais de Luena, une grande pluie s'abattait sur cette commune rurale accompagnée d'un vent violent. Plusieurs maisons, dont les écoles et les églises, se sont écroulées et d'autres ont vu leur toiture emportée. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais on a enregistré quand même des blessés, à l'instar d'un homme sur qui les murs de la maison sont tombés et qui s'est fracturé la jambe, renseigne la société civile locale. Ainsi, la plupart des victimes ont passé leur première nuit à la Belle Étoile. D'autres ont été accueillis dans des familles amies. Les quartiers les plus touchés sont Kikama, Kadastre, Maïzegui, 5 ans et Vodacom. La société civile locale parle de près de 80 maisons touchées, tandis que l'autorité politico-administrative avance le bilan d'une trentaine de maisons qu'il a lui-même vues. Toutefois, Moïse Mouenzé précise que l'évaluation se poursuit pour avoir un bilan définitif. Entre-temps, ne sachant que faire, ce jeudi matin, certains responsables de familles victimes tentent de rebâtir leur maison avec des faibles moyens. Ils craignent d'être surpris par une nouvelle pluie pendant qu'ils passent la nuit dehors s'exposant aux intempéries, surtout pour ceux qui ont de tout petits enfants et des personnes de troisième âge. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
La vaccination préventive contre la fièvre jaune à l'Équateur a été lancée le 25 octobre dernier. Elle vise près de 3 millions de personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Depuis mercredi, la campagne a commencé à connaître un engouement dans la zone de santé urbano-rurale de Bolengue, notamment à Wendji Sekli, quartier périphérique à 20 km de la ville de Mbandaka. La population qui était réticente a commencé à se vacciner. Reportage de notre correspondant régional Paul-Richard Malengela.
Depuis lundi le 25 octobre dernier, plusieurs centres de vaccination préventive contre la fièvre jaune sont ouverts le long de la route Mbandaka-Wendji-Sekli. Pour la plupart, ce sont des femmes qui amènent aussi leurs enfants et des jeunes qui viennent recevoir le vaccin. À notre passage au centre de santé de Wendji-Sekli, qui héberge le principal site du quartier, l'équipe de vaccination était envahie de beaucoup d'enfants en âge scolaire. Après sa piqûre de vaccin, Ruth et Fanji Kombola, la quinzaine révolue, a indiqué sa satisfaction. J'ai déjà reçu le vaccin. Je suis encore jeune, cela va me protéger. C'est vraiment important. Juste à côté, Madame Natacha Bossa, qui vient d'entrer au centre. Elle accompagne simplement sa fille, dit-elle. Elle-même est encore méfiante. J'ai résolu de venir faire vacciner ma fille en vue de la protéger contre l'épidémie. Moi-même, j'ai peur, parce qu'à chaque fois que je reçois le vaccin, il me rend malade. Mais le coordinateur provincial du peuple Équateur, que nous avons rencontré en supervision sur les lieux, a expliqué que cette réticence était générale tout au début de la campagne. Mais elle a cédé de plus en plus place à l'engouement. Docteur Roch Bayoli.
Ça avait hésitation, effectivement, mais aujourd'hui, il y a quand même une adhésion, il y a engouement, puisque les sites qui n'avaient pas vacciné plus de 50 personnes, aujourd'hui, ils sont dans les 200, 300 personnes vaccinées.
Notons qu'une carte jaunâtre est remise à chaque personne vaccinée. Bandaka, Porsche Malengue, la Radio Okapi.
élections annoncées des gouverneurs dans 14 provinces du pays. Une correspondance du ministre de l'Intérieur du 27 octobre 2021 demande au président de la CENI de décaler de 30 jours la tenue de ce scrutin. Avec comme objet réaménagement du calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, on peut lire dans cette correspondance: eu égard à des contraintes administratives évidentes, le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a instruit de vous demander de décaler de 30 jours les effets de votre décision et de réaménager par conséquent le calendrier électoral, ainsi écrit le ministre de l'Intérieur. Cette élection était initialement annoncée pour le 3 décembre.
Actualité internationale.
Les manifestations sont interdites au royaume d'Eswatini, mais ils étaient quand même une poignée de protestataires pro-démocratie à donner de la voix ce jeudi à Manzini, la plus grande ville du pays, sous les yeux de la police. Dernière monarchie absolue d'Afrique, l'Eswatini est secouée depuis juin par une virulente contestation violemment réprimée. Des manifestations pro-démocratie menées par des étudiants, fonctionnaires, travailleurs des transports aux soignants ont conduit à un déploiement de l'armée. Des dizaines de personnes ont perdu la vie. Sachez aussi que le Niger a reçu mercredi des mitrailleuses lourdes et des véhicules tout-terrain offerts par la France pour aider à combattre les groupes terroristes. Quelques 28 pick-up militaires légers et 71 mitrailleuses lourdes de calibre 12.7 mm ont été reçus et sont destinés au bataillon spécial d'intervention situé à Dosso dans le sud-ouest du pays.
L'invité.
Professeur Joël Lissenga est l'invité de Radio Okapi ce jour. Il est auteur d'un ouvrage de 330 pages intitulé « Leadership politique et sous-développement en RDC, ville de Kisangani et ses élites postcoloniales ». Paru aux éditions L'Harmattan, il a été baptisé hier mercredi à l'université de Kinshasa. Professeur Joël Lissenga s'entretient avec Michel Kifindangoy sur le contenu de cet ouvrage.
Professeur Joël Lissenga, bonjour.
Bonjour Michel.
Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur le sous-développement de la RDC et le leadership congolais?
Trois choses. La première, c'est que, vous savez, les conceptions qui sont tout à fait pérennes démontrent que le sous-développement des États africains post-coloniaux proviennent de l'Occident. Notre malheur se trouve en Occident et nous voulons premièrement essayer de créer une rupture à travers cet ouvrage ou une prise de distance par rapport à ces fausses conceptions. Les causes du sous-développement des États africains post-coloniaux, là je vais citer la République démocratique du Congo, se trouvent pratiquement dans notre milieu à travers ce que j'ai appelé ici les élites politiques qui pratiquement naviguent dans le leadership politique du sous-développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis l'accession de la République démocratique du Congo en l'indépendance en 1960, nous tournons à rond et nous nous posons autant de questions, dont la question majeure, pourquoi un pays pourvu de élites intellectuelles de qualité, pourvu de toutes sortes de richesses, reste dans les carcans du sous-développement? Alors, cet ouvrage cherche à répondre à cette question et démontre clairement que les Congos est malade de son élite politique qui demeure dans le leadership politique du sous-développement à travers de guéguerres de leadership, à travers le manque de vision pour le développement depuis 60, à travers les intérêts égoïstes mis en avant-plan. Voilà ce que nous cherchons à montrer. Troisièmement, c'est que nous voulons apporter notre contribution à une problématique qui reste majeure. On se demande, mais pourquoi nous dormirons dans les carcans du sous-développement alors que nous avons tout ce qu'il faut?
Vous parlez de la maladie congolaise qui est celle de son leadership qui pose un problème du nationalisme et du sous-développement. Et quels sont les faits concrets pouvant nous permettre à comprendre le nationalisme et du sous-développement?
Très bien. Le nationalisme du sous-développement, c'est tout simplement l'opposé du vrai nationalisme. Le nationalisme du sous-développement ressemble un peu au nazisme. Vous voyez cette forme de guéguerre qui amène les élites politiques à s'entretuer. Notamment, nous prenons ici un cas de figure, la ville de Kisangani, que nous avons cité dans l'ouvrage. Vous avez eu à 64, d'un côté, le progressiste qui était le pro-belge et puis le nationaliste. Comment ils se sont donné la mort?
Pour revenir au passé récent, aujourd'hui, nous voyons des phénomènes tels que Kamwena Sampou. On voit les gens, même à travers des marches ici, d'un côté, qui se disent nationalistes, nous défendons tel cas. Cette forme de guéguerre qui amène la population et même les élites à s'entretier, vous voyez les spectacles au Parlement qui laissent à désirer. Tout le monde prend les nationalismes, mais on ne comprend pas le vrai sens du nationalisme. Alors, ici, les uns sont dans les nationalismes du sous-développement, croyant faire du vrai nationalisme.
Au regard de ces diagnostics préoccupants que vous venez de poser, quelle thérapeutique vous pouvez proposer pour un Congo réellement développé et à la taille de ses richesses?
Il faut d'abord que l'on prenne conscience. La prise de conscience est le premier remède pour construire le leadership politique de développement. Lorsqu'on ne prend pas conscience, nous allons tourner toujours en rond, nous allons croire que nous faisons bien, nous évoluons normalement, alors que nous sommes en train de nous perdre. Et puis, les élites politiques doivent découvrir les connaissances qui sont produites dans le monde universitaire. À travers cet ouvrage, nous proposons plusieurs solutions pour que nous puissions construire un leadership politique qui va nous amener réellement au développement.
Professeur Joël Lissenga, je vous remercie.
Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette édition de journal préparée par Élisée Chikota, Alain Hirung, Peleki Pelamondo, Billy Ivan Lutumba était à la présentation et Jean-Noël Mokonda assurait la prise des sons et la mise en onde. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention.